Alors, ce chiour est dédié pour l'élévation de l'âme de Daniel Ben Missa Habib. La question de David.
Alors, on sait qu'on doit servir Dieu de manière lishma, donc sans intérêt. Et d'un autre côté, on sait aussi qu'on doit servir Dieu avec simcha, avec de la joie. Donc, comment convier les deux concilier les deux. Parce qu'on sait qu'on, donc d'un côté, on va servir Dieu sans intérêt, et puis ensuite, ça va nous donner de la joie, peut-être. Et au final, on va être tenté quand on va avoir de la joie, quand on va étudier, on va être tenté d'étudier justement pour cette joie-là. Alors, comment trouver cette limite?
Ok, bonne question. Auparavant, je peux expliquer un peu nuancer ce que tu as dit. Donc, tu as dit on doit servir Dieu sans intérêt. On est censé. Mais c'est un niveau très, très balèze. Et il faut comprendre que, comme toute chose dans la vie, c'est nuancé. Il y aura les antipodes, celui qui étudie ou qui sert Dieu, étudie la Torah, d'accord, sert Dieu, fait les mitzvot, prie, uniquement dans son propre intérêt. Que ce soit Olam Hazeh, ce monde, Olam Haba, le monde à venir. Uniquement pour ça. Et il y en a pas mal, j'imagine. Certainement les enfants, les jeunes gens dans les écoles juives aussi. C'est dur, c'est rare qu'ils servent Dieu par amour. Ils ont compris qu'il y a une certaine intelligence dans la Torah et qu'il y a aussi un boss là-haut et il y a un compte et mieux vaut mettre... T'as deux comptes, le bon et le mauvais, et mieux vaut remplir le bon et pas trop remplir le mauvais. Ok, ça c'est une extrême. L'autre extrême, complètement désintéressé. Le Rambam dit c'est un très haut niveau, celui d'Abraham Avinu, que Dieu a appelé Ohavi, mon amant. C'est quoi désintéressé? Et là je vais déjà toucher un peu à ta question, parce que nous on comprend pas très bien, ça veut dire quoi désintéressé, quelle est ma motivation de faire une mitzvah? Étudier, si c'est pas pour moi. Pour Dieu, ok, mais je dois bien. Parce qu'il a dit. Pourquoi je le ferais? Pour pas aller en enfer. D'accord? Pour arriver au paradis ou pour faire plaisir à Dieu, il a besoin de moi. Alors, comme explique le Rambam, c'est la fin du Lechot Tshuva, ça tombe bien, c'est le mois de Elul. Que bien que certainement, ceux qui servent Dieu de façon intéressée. Leur service de Dieu a une valeur. Quelqu'un qui fait de façon complètement intéressée, pour ne pas aller en enfer, il a peur de l'enfer, d'accord? C'est vraiment l'intéressé le plus bas niveau, d'accord? Il tremble de peur de ne pas faire de mitzvah, d'accord? Mais il était, faut pas aller en enfer. Bon, ça existe. Ou encore pire, enfer c'est encore Olam Haba, d'accord? Il veut pas rater son bac. Je connais quelqu'un, il m'a dit, j'ai mis une filine jusqu'à ce que j'ai eu le bac. Après, j'ai arrêté. Et ses enfants mangent du porc aujourd'hui. Bon, c'est... Donc c'est vraiment très intéressé, niveau râler pas crête, d'accord? Ben, c'est valable quand même. C'est valable. Donc, pas croire que, parce qu'on est tous, nous à notre niveau, on est très loin d'Abraham Avinu, donc on est tous aussi un peu intéressés, un peu ou beaucoup intéressés. Le complètement désintéressé, c'est le niveau Abraham Avinu. Et Dieu l'a appelé Ohavi, ça veut dire c'est une question d'amour. La motivation de servir Dieu provient d'un amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se mange? D'où ça vient? On va parler un peu plus tard parce que c'est vrai que c'est une chose qui est dure d'accès pour ceux qui ne l'ont pas. Et personne n'est là au début de la vie. Quand on est enfant, on n'a pas d'amour de Dieu. C'est une chose qui se développe après avec la maturité et la neshama. On va en parler avec les deux dieux. Pour répondre à ta question, tout simplement, comme le fait le Rambam là-bas, c'est la fin du Lechot Tshuva, il compare la relation qu'on a avec Dieu comme celle qu'on a avec une femme. Ce n'est pas lui qui a inventé cela, c'est le point de Shir HaShirim. Shir HaShirim qui est une histoire d'amour, qui est en fait une allégorie, un exemple de la relation que nous avons, nous, Am Israël, avec Dieu. Une histoire d'amour passionnée. Donc on voit que Chazal, on fait une correspondance entre l'amour de Dieu et du peuple d'Israël et l'amour entre un homme et une femme. Alors pour répondre à ta question, comment moi je vais servir Dieu maintenant par amour de Dieu? Ça me provoque de la joie. Donc maintenant, quel est le piège? Je ne vais plus servir Dieu parce que je l'aime et parce que je fais de façon désintéressée pour lui quelque part, je fais pour moi, pour avoir plaisir, pour avoir la joie. Non. Transposons ça dans le cas de quelqu'un qui est amoureux d'une femme. Il l'aime. Attention, pas tous ceux qui croient qu'ils aiment leur femme, aiment leur femme. Ça, on saura après le mariage, quelques bonnes années. Est-ce que l'union avec elle, c'était une sorte de business ? Je te donne, tu me donnes, comme ça tout le monde est content. C'est un système économique qui est d'habitude lié à la crise, la crise économique mondiale, la crise économique des foyers aussi. Ou bien c'est vraiment, là aussi, bien sûr, toujours une partie égoïste, mais il y a aussi une suffisamment grande partie d'amour de l'autre, on est prêt à donner à perte. Pourquoi ? Par amour. Ou l'amour qu'ont les parents pour les enfants pour leurs parents, qui d'habitude est beaucoup plus désintéressé. Pourquoi des parents donnent à leurs enfants ? Pas par intérêt. Aussi un peu, je veux que mon fils soit un médecin ou avocat, donc chez les gens tordus, ou que soit un grand homme traham, chez les gens un peu mieux. L'enfant qui va faire un cadeau à son père ou à sa mère, d'habitude, c'est complètement désintéressé. Il ne dit pas, je vais maintenant faire un beau dessin à ma maman, comme ça, demain, j'aurai deux parts de dessert. C'est rare. D'accord ? Donc, nous voyons ici qu'il existe un amour désintéressé. Maintenant, quand je donne de l'amour à la personne que j'aime, j'éprouve de la joie. Mais est-ce qu'on va en déduire que la motivation qui me fait donner l'amour, c'est la joie que je vais recevoir en conséquence de l'amour que j'ai donné? Non. Je donne parce que j'aime. Il est vrai qu'en cadeau bonus, il y a aussi une grande joie qui provient. Je ne vais pas m'attendre la prochaine fois où je vais donner, dire « Ah, la dernière fois, j'ai eu de l'amour, j'ai fait un don de moi gratuit par amour à la personne que j'aime, dire ma femme, ça m'a procuré un grand plaisir, maintenant je vais le faire pour le plaisir. » Non, je fais parce que j'aime.
Non, peut-être qu'on se dit pas ça, mais peut-être qu'inconsciemment il y a quand même un peu de ça, on se dit
oui.
Tiens, ça m'a fait plaisir, donc bon, je vais lui redonner, ça va encore me refaire plaisir. C'est pas qu'on va rationnellement dire bon,
oui.
Plaisir, mais il y a quand même ça qui rentre beaucoup en compte peut-être.
Je ne sais pas si au niveau où tu parles, il faut dissocier ça. Quand je fais un acte d'amour à ma femme, si je fais trop pur, pourquoi tu donnes ? Parce qu'il faut donner, parce que c'est comme ça, parce que je suis bon, parce que il manque le kiff de donner. Ta femme te dira au contraire, ça va. Le kiff est important. Le plaisir de donner, je vais analyser encore.
Hein ? Le kiff pour soi-même.
Le kiff que toi, que tu as le plaisir que tu éprouves de donner, fait partie aussi du don. Dieu aime, c'est écrit, il y a une introduction au grave, la mort de Sokhatchov, l'Avnei Milouim, il a écrit un bouquin qui s'appelle Igletal, un livre très grand, majeur sur les 39 Melachot de Shabbat, à bas de l'introduction, il écrit contre ceux qui croient que désintéressé signifie, il parle d'études de Torah, étudier sans plaisir, sans joie. Et au contraire, c'est la preuve de l'amour, c'est la preuve qu'on est vraiment désintéressé, qu'on étudie avec joie. Et c'est comme dans un couple. Si maintenant chacun des conjoints va donner à l'autre parce que de façon pure, comme ça, éthérée, c'est bien de donner, mais il éprouve aucun plaisir à donner, il oublie l'amour. Le kiff, c'est ça la marque d'amour. C'est ça la relation. J'aime te donner. J'ai un plaisir à te donner. Maintenant, est-ce que je le fais pour le plaisir ? Non. J'aime donner. J'ai du plaisir, mais je t'aime toi. Je vais me donner pour toi. Maintenant, tu me diras, ouais, mais, alors ta question, en fin de compte, c'est pas du 100% pur, parce que j'ai quand même un retour, c'est un peu pollué, c'est pas... Prenons un exemple qui ressemble, qu'on pourrait croire qu'il ressemble à cela, et on va faire la nuance entre les deux. Quelqu'un étudie maintenant sa page de Gemara par amour de la Torah. Il aime, c'est beau, c'est grand. Puis il va au shiur, et puis du coup il y a une question. Il pose une question, le rabbi dit ah, franchement, ta question de Tosfot, kol hakavod, ah vraiment, bravo. Bon, il est content, tout ça, machin. Bon. Demain, il reprend sa page de Gemara, Et tout coup, il se pose des questions. Bah, quelque part dans la tête, peut-être c'est une bonne question, peut-être c'est la question aussi de Tosfot, et machin. C'est certain, il a reçu du caveau d'hier, quelque part dans la tête, il est pollué. Il est pollué. Sa recherche de questions maintenant, elle vient aussi de l'amour de la Torah, et d'une curiosité de connaissance. Mais il y a aussi peut-être que c'est une bonne question et que je suis un peu quelqu'un. Et là, effectivement, ça pollue. Carrément, ça pollue. Encore une fois, nous parlons du niveau d'Avraham Avinu. Alevaï, traduction en français, si seulement tous les bons juifs étudiaient la Torah, même complètement polluée. C'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Chazal qui le dit, il y a 2000 ans. Dieu dit, si seulement mes enfants étudiaient ma Torah, qu'à la lumière qu'elle contient les ramènerait à la pratiquer, à être des bons juifs. C'est plein de lumière. Attends, même quand on l'étudie, la façon la plus polluée qu'il puisse y avoir, c'est tellement sain que ça vaut la peine de le faire. Alors, je vais maintenant à la question. Quelle est la nuance? Pourquoi est-ce qu'on va dire, lorsque tu étudies maintenant, puis on te fait un compliment, c'est pas le top? Alors que si maintenant j'ai de la joie, quand je donne de l'amour à ma femme, ou je fais un acte de service divin avec amour, j'ai de la joie, pourquoi c'est pas une pollution? Réponse très simple. Qui reçoit? Qui reçoit? Là, je reçois du kavod, de l'honneur. Je suis quelqu'un. Là, je reçois la joie de donner. Il faut comprendre. L'être humain, c'est beaucoup de niveaux. Des niveaux les plus bas, animal. Je vais même dire mieux, pire qu'animal. Parce qu'on peut arriver à des déviations bien pires que les animaux. Et au niveau plus haut, bien plus haut que les anges. Bien plus haut que les anges. Ça, c'est l'être humain. Des niveaux les plus bas, au niveau plus haut, tout ça, c'est Dieu a pris des plus grandes parties spirituelles plus hautes et des plus basses, et les a réunies ensemble. Ça fait l'être humain. On ne va pas rentrer dans toutes les différentes strates de cet être humain, mais comme je dis souvent, on va séparer ça en trois grandes parties, Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, partie animale, Ruach, intermédiaire, Neshama, partie divine. Le Nefesh, en gros, c'est l'ego. L'énorme, affreux, terrible ego dont nous souffrons tous. Quand on me dit, belle question, c'est digne de Tosfot. L'ego, là, il fait un boum. T'es quelqu'un. Qui? Les parties les plus basses de l'être. Nefesh. Animal. L'animal a reçu. Et ça, ça pollue. Maintenant, la neshama, elle a aussi du plaisir. Le nefesh, quel plaisir il a? Tous les plaisirs du nefesh sont animaux, c'est-à-dire des plaisirs de réception. Quand je mange, quelque chose de bon, je reçois du plaisir. Les plaisirs de reproduction, je reçois du plaisir. Les plaisirs de pouvoir, quelqu'un a du pouvoir sur les autres, le plaisir à son ego. Les plaisirs de cavote, on fait des honneurs, t'es quelqu'un. Les plaisirs qu'on voit aujourd'hui beaucoup en Irak, de cruauté, les gens qui aiment, il y a une partie en nous cruelle, d'accord, ils ont plaisir de faire du mal. Tout cela, ce sont des plaisirs de satisfaire mes envies les plus basses, l'ego, animal, la paresse. Maintenant, la neshama, elle a aussi du plaisir. Quelqu'un, la neshama, c'est quoi? La neshama, c'est un éclairage de Dieu qui est exactement le contraire de l'ego, qui cherche exactement le contraire que ce que cherche l'ego. Par exemple, Neshama est en quête de vérité. Quand je dis auparavant qu'on ne peut pas parler d'amour de Dieu à un petit enfant, je ne veux pas dire à un petit enfant de 7 ans, quel est le but de la vie? Où est la vérité? Quel est le sens du monde? Je lui parle de cela, il ne comprend pas ma question. Il n'a pas les outils spirituels permettant d'entendre ce que je dis. Entre 13 et 20 ans, il y en a qui ça prend du temps, jusqu'à 80 ans, ils se posent pas la question, mais les gens normaux, qui n'ont pas trop atrophier l'éclairage de la Neshama, mais entre 13 et 20 ans, on se pose des questions existentielles. Pourquoi je vis? J'ai une soif de sens. J'ai une soif de vérité. Je ne veux pas être dans le faux, je veux être dans le vrai. Ça ne provient pas de l'ego du Nefesh. L'ego du Nefesh, il est animal. Aucun animal se pose des questions existentielles. Je n'ai jamais vu un chien se dire comme ça. Que faire de ma vie? D'accord? Ça n'existe pas une chose pareille. Ça, c'est propre à l'être humain. L'être humain, tous les êtres vivants pensent. Le seul qui peut penser qu'il pense, c'est l'être humain. Il a conscience de lui. Donc, il faut être hors de lui-même, c'est-à-dire, qui suis-je? Comme dit la Kabbalah, Adam, c'est l'homme, d'accord? Adam, l'être humain, valeur numérique 45, même valeur 45 que le mot ma. Ma qui signifie quoi? Une des choses essentielles caractérisant l'être humain, c'est la capacité de se questionner. Je suis en phase de choix. Pourquoi? Aucun animal pose la question pourquoi. Animal, on dit en hébreu, behema. On peut lire bahma. En elle reste la question. C'est pas qu'il se pose des questions. Pour se poser une question, il faut se mettre hors de soi-même, c'est-à-dire qui suis-je? Pour poser une question qui suis-je, je me mets hors de moi-même et je me regarde. L'animal ne peut pas faire ça. Et lui, reste, la question reste intérieure. Chochma, c'est la sagesse. Il faut inverser les deux premières, c'est koach, la puissance de dire ma. Un sage, ce n'est pas quelqu'un qui sait beaucoup. Il sait se remettre en question sans cesse. Suis-je dans le bien? Est-ce que c'est juste? Moi, par la vérité, je fais maintenant mon bilan. Elul, messieurs, en 30 jours, on est jugé. Bilan, où j'étais l'année passée, où je suis, qu'est-ce que je peux améliorer? Ça, c'est le sage. Alors, où est-ce qu'on était? L'animal se pose... Alors, voilà. La Neshama, c'est elle qui m'amène un éclairage qui me fait poser ces questions. La soif de vérité provient d'un éclairage de la Neshama qui est divine. L'amour de la justice ou le dégoût de l'injustice, le désir de faire du bien autour de soi, ce sont désintéressés. Tout ça provient de la Neshama. Tu n'as pas ça chez l'animal. L'animal, ou bien il est programmé, enfin en deux mots, il est programmé à au Nefesh, les basses pulsions animales. Quand je donne de l'amour, je fais un acte d'amour envers Dieu. Je ressens une joie. Cette joie, messieurs, elle a une valeur, petite parenthèse, extraordinaire. Je parle maintenant au niveau très haut, mais sachez que c'est... Bon, on va peut-être en parler après, je vais continuer sur le sujet. D'abord, je vais répondre à la question. Quand je fais un acte d'amour et j'éprouve de la joie, qui éprouve de la joie? La Neshama. Pas le Nefesh. Donc je développe maintenant la Neshama. Elle ne doit pas être un robot. C'est une partie de moi qui vit. Plus je vais vivre le kiff de connaissance de vérité, la soif de vérité et la connaissance, le bonheur que j'ai de connaître, de toucher vraiment la vraie réalité des choses, est-ce qu'il y a une chose plus grande que ça? Heureusement, on doit vibrer. Le type qui vibre, il vit. Le type qui ne vibre pas, il est mort au niveau de la Neshama. Au contraire, c'est un acte de grandeur. Et Dieu veut ça. Et on ne peut pas dire à cause de ça, puisque je vibre, parce que je trouve la vérité, alors c'est pollué parce que c'est pas une vraie désintéressée. Non, au contraire, tu es complètement désintéressé. Regarde, tu ne profites pas maintenant au niveau de ton ego. Ton ego, il est mort là-dedans. Quelqu'un qui dit jour et nuit, il vient à l'Eshiva, il commence à voir, tellement, et jour et nuit, il est dans les bouquins Torah, il n'arrive pas, il aime ça. Son ego, il morfle, d'accord, il n'en peut plus. On ne dort pas, on ne mange pas, on étudie toute la journée sur une banque, tac, tac, va à la mer. Non, j'étudie. L'ego, il est mort. Et lui, il est plein de vie. Quelle est la motivation? L'amour. C'est très grand. Dieu, il aime ça. C'est certain. Dieu, il aime ça. Ça veut dire que tu t'es branché. Tu fais éclairer ta Neshama en toi. Tu vis. Tu vis. Pas animalement. Divinement. C'est bon, tu as répondu à la question. Maintenant, il faut que vous me dites quand c'est l'heure, parce qu'il n'y a plus de montre là en face. Ok, 12 minutes. Ta question est bonne, parce qu'elle concerne aussi tous les jeunes gens qui sont arrivés maintenant à la Yeshiva. Et qui certainement ont ça en eux. Pourquoi? Parce que dans le monde orthodoxe habituel, il n'y a pas de question. Les jeunes gens sont formatés, depuis qu'ils sont petits, ils entendent, la réussite c'est grandir en Torah. Et forcément, étant petits, ils n'ont pas encore les outils spirituels qui sont un neshama, ils ne sont pas encore développés. Donc, ils peuvent étudier la Torah par amour de Dieu. Ils étudient parce que c'est bien, parce qu'on va au paradis, parce que papa et maman, ils font ça, j'aime bien faire plaisir à papa et maman, et puis il y a la concurrence. Et c'est normal. Chazal disent, Kinat Sofrim Tarbe Chochma, la concurrence, la jalousie qu'il y a entre les Sofrim, entre les étudiants de Torah, elle amplifiera, grandira la sagesse. C'est-à-dire quand tu étudies tout seul, tu étudies beaucoup moins quand tu étudies à deux. Pourquoi? Parce que tu as compris quelque chose, et l'autre, ou bien parce qu'on est deux maintenant, on n'a pas compris. Tu as envie de comprendre avant lui. Par ego pur, d'accord? C'est de l'ego pur. Ou si toujours lui comprend avant toi, au bout d'un moment, tu quittes, parce que tu tiens plus le coup, parce que moi aussi j'existe, d'accord? J'ai aussi montré que je suis capable de comprendre quelque chose. La jalousie, tout bêtement. C'est un outil que plutôt que d'être jaloux parce que l'autre a une belle voiture, ou bien parce que je ne sais pas quoi, d'accord? T'es jaloux qu'il y a plus de Torah. C'est bien, alors tu vas plus bosser. Et on bosse plus. Donc quelque part, c'est un pis-aller, c'est pas génial, mais c'est un moteur nécessaire qui est utilisé dans l'éducation, c'est clair. Le problème, c'est que quand on est petit, ça marche bien. Mais après, quand on grandit, il faut pouvoir maintenant se débarrasser. Et plus étudier maintenant pour être le rabbin numéro machin, le monsieur, le machin, etc. D'accord ? Il faut continuer à étudier la Torah maintenant pour à part mot de Dieu. Et là, il y a beaucoup de pollution. Un jeune homme entre 18 et 28 ans qui vient de Yeshua Yosef, qui commence au niveau du monde orthodoxe un peu moins que zéro, qui est nul de nul, et qui commence à nonner maintenant une gmara en araméen, il reste 2 heures sur une phrase. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi pas le grand rabbin ? Pardon ?
C'est pas
par amour. Par amour total. Et quel amour ? Parce que ici en été, on est au mois d'août, d'accord ? Des gens à l'échivac, on était fous. T'as vu la mer bleue, les vagues, le sable blond, vas-y cours, matkot, tac, il y a du surf machin, tout ce que tu veux, du delta pente. Éclate-toi! Non, le Yeshiva, qu'est-ce que le Yeshiva? Tu lis un vieux texte d'il y a 1500 ans, tu ne comprends rien. Un truc qui ne nous concerne tellement pas du tout, mais rien à voir. Par amour de quoi? Une quête de vérité. Je sais que il y a. On ne sait pas vraiment quoi. La vraie chose, c'est l'amour de Dieu. Mais c'est. L'amour de Dieu, c'est quand on sait déjà mettre un visage sur Dieu, mais qu'on a une relation déjà assez grande, on peut commencer à dire « je suis amoureux de Dieu », d'accord ? C'est un très haut niveau. Ce n'est pas le niveau des gens qui arrivent comme ça. C'est une attirance provenant de la Neshama vers le vrai, vers la Torah. On sent qu'il existe quelque chose de vrai. Et ça, messieurs, ça a une valeur inestimable. La vraie preuve, ça prouve que tu vis ta Neshama. Dans beaucoup d'écoles juives, tu vois les élèves lors de Gemara, c'est la corvée. La prière, on n'en parle pas. Tourne les pages. Même pas qu'il ouvre cette voie. C'est dur pendant une heure de bouger comme ça l'élève. Très dur. Qui dans l'école juive prie. Pas récite, prie. Il demande Hachem. Il est en relation avec Hachem. C'est très dur, c'est presque impossible. Donc il y a beaucoup de morts vivants. C'est des bons juifs. Mais ils n'ont pas tellement la flamme. Quelqu'un qui est capable de quitter tout, venir maintenant passer quelque temps à la yeshiva, ça prouve qu'il a une flamme très grande. Alors des fois, il est venu tout juste comme ça, mais quand même, il a fait un effort. Il peut aller à la plage s'éclater, il vient ici. Ou il fait une année maintenant, en pleine étude, vas-y, fait une carrière, devient un bac plus machin. Il vient et prend une année de yeshiva. Ça prouve qu'il a une neshama qui est réveillée. Oui, ok, très bien, mais il n'y a pas que faire de l'argent, il n'y a pas que mon ego animal. Il y a autre chose. C'est autre chose, c'est une valeur inestimable. Et il faut cultiver ça. Il faut y penser. C'est bien qu'on fasse des cours sur le sujet. Parce que chaque chose dont on ne parle pas, alors, elle s'oublie. Et après, ça s'atrophie. Et ceux qui n'ont pas ça, il faut y penser. Lentement, à voir pourquoi je suis ici. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Ah, un copain m'a parlé. Ok, tu aurais pu dire non. Pourquoi venir à l'Yeshiva? Demain, vous n'avez pas encore vu ce matin. Mais demain matin, messieurs, le réveil, personne ne reste au lit. Personne ne reste au lit. Donc, en résumé, il y a deux parties en nous. Et jusqu'à un âge assez avancé, ça veut dire entre 13 et 20 ans, et comme je dis des fois, beaucoup plus tard dans la vie, on n'a pas la partie divine qui est réveillée, elle est éteinte. Après ça, ce qu'il y a avant, c'est Kol Yetzer Hara. La Neshama commence à venir un peu à l'âge de 13 ans. Alors c'est que le rouach, d'accord, c'est une nefesh. Dès 13 ans, ça commence au rouach et ça grandit lentement, lentement. Dès 20 ans, vient la neshama. Elle grandit aussi. Chaque anniversaire, on reçoit un peu plus de parties de neshama. Maintenant, on peut faire en sorte de recevoir beaucoup plus de parties. Comment? En cultivant, en pensant à cet amour de Dieu, en pensant à qu'est-ce que je fais ici, je suis en quête de quoi, maintenant j'étudie pourquoi. Quand tu penses à une chose, alors elle grandit. Plus tu penses à une chose, plus tu fais attention, tu en as conscience, alors elle commence à briller en toi. Où est le sens? Pourquoi je suis ici? Quel est le sens de la vie? Pourquoi je suis venu sur Terre? Qu'est-ce qui est accessoire sur Terre? Qu'est-ce qui est essentiel? Combien c'est important? Rabbeinu Ari, toute la Kabbalah, il dit qu'il faut qu'une personne s'assied une heure par jour à se poser ces questions. Moi, je suis incapable, même une minute par jour, c'est déjà difficile, d'accord? Une heure par jour, poser des questions. Pourquoi je suis venu sur Terre? Qu'ont fait maintenant nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Jacob pour être tellement aimés de Dieu? Et là, ça remet un peu les pendules à l'heure, parce qu'on est attiré par ce monde. Comme j'ai commencé à dire, non seulement Dieu nous a mis un Yetzera, donc la partie Nefesh qui est très puissante, mais en plus, elle s'est installée là 13 ans auparavant. Donc elle est là. C'est comme un cheval d'un cavalier. Le cavalier, on va dire que c'est le rouar. D'accord? C'est lui qui commande. Le Nefesh, c'est la partie égo. Jusqu'à 13 ans, il n'y a que l'ego. C'est un cheval libre. Que fait un cheval libre? Eh bien, il gambade dans des prairies. Il va danser avec des juments. D'accord? Etc. Il a un cavalier endormi dessus. Il est content. Et puis à l'âge de 13 ans, le cavalier, tic, il ouvre un œil. Il a pris le vent deuxième œil. Il lui dit, oh! Le cheval dit, qu'est-ce que c'est? Quoi, oh? Prière. Il lui fait un talalam, comme ça, rodéo. Looping. Et reste au lit. Et après, c'est quoi? Si on le lève de force, comme font les parents ou le Rosh Hashiva, il vient le chercher. Bon, il n'a pas le choix, d'accord? C'est le coup de fouet, ça c'est l'animal aussi. C'est pas, mais se lever pour la prière, les Shem Shamaim, quelle joie d'aller prier maintenant, quitter son doux lit alors qu'il fait 0 degré dehors. Ah, quel bonheur! C'est un balèze niveau, hein? Donc le cheval, il dit, ça va, laisse tranquille, laisse-moi dormir. Donc, le cavalier vient très tard. Le cheval, c'est le seul propriétaire du cheval cavalier. Et lentement, maintenant, le cavalier doit commencer à dire, non, mon cher ami, parce que maintenant, tu étais la propriétaire, maintenant, moi, je commence, et lentement, on va, pas d'un coup, mais lentement, on va commencer à travailler. Et pour que ce travail se fasse bien, il faut pas seulement se dire, il faut le faire, ça marche pas très loin, il faut tomber amoureux. Il faut qu'on ait une pulsion de plaisir des choses divines qui soit au moins égale aux pulsions de plaisir des choses animales. Et ça provient de la joie qu'on a, de l'amour qu'on a. Et comment on viendra à l'amour? Comment on viendra à la joie? En pensant à cela. Et développer chez nous cet amour qu'on a de la vérité. Et si on ne l'a pas, commencer à se poser les questions. Pourquoi je vis? Et voir qu'est-ce qui est accessoire. Pourquoi je vis? Pour plus d'argent, qu'est-ce que ça m'amène? Ok, des commodités. Mais j'ai besoin de tout ça. Et des honneurs. Est-ce que je sacrifie ma vie maintenant pour des commodités? C'est un peu plus doux sur la bouche. Comme je dis très souvent, tu roules en voiture. C'est quoi la différence entre une belle voiture, la carrosserie un peu, et l'épidermique du postérieur, sauf votre aspect, d'accord? Quand tu roules, c'est un peu... L'épidermique profite. Ok, c'est important d'avoir l'épidermique du postérieur. Mais quand même... Tu vas pas mourir avec ton épidermique. Deux jours après, dans la tombe, il est mort, d'accord? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Pas qu'est-ce que tu as. Pas qu'est-ce qu'on dit de toi. Qu'est-ce que tu es? Si on réfléchit à ces choses-là, alors on développe chez nous l'amour de la vérité, qui après devient un amour de Dieu, qui nous fera aimer les choses divines, et nous aidera après à minimiser les choses, les pulsions animales, et ainsi on a gagné le gros lot. Baruch Adonai, Roman Vamen.